11h04, on est de retour dans Trudeau-Landry. On apprend dans les dernières secondes, Nico, le bilan quotidien de la COVID-19. Encore un bilan de cas assez élevé aujourd'hui.
Oui, j'ai pas le par région encore, mais 838 nouveaux cas au Québec.
Donc, on se rapproche encore une fois des, quoi, 1000 quelques cas en moyenne au printemps, là. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles, mais oui, on teste
aucun
plus.
Décès. C'est la bonne.
Vois-tu, je vois un décès selon Radio-Canada. Radio-Canada rapporte un décès, LCN également. 838 nouveaux cas et un.
Le décès est survenu entre le 23 et le 28 septembre.
OK. Donc qui date d'ailleurs. OK. C'est un peu de rattrapage. Je le disais en début d'émission, c'est pas facile ces temps-ci. La météo aide pas beaucoup non plus, avec de la pluie dans plusieurs secteurs au Québec. Et la possibilité d'une troisième et quatrième vague est apparue dans le discours gouvernemental cette semaine, vous remarquerez. Déjà qu'une deuxième vague, une vague automnale de l'automne de la COVID-19, on peut se demander, coudonc, on va-tu passer à travers? T'sais, c'est lourd, Joe, hein? C'est très difficile à encaisser. On se demande si on va voir le bout.
Ouais.
Et ce matin, on a publié, c'est entre autres dans Le Devoir, une enquête de l'Université de Sherbrooke sur l'ampleur de l'impact psychosocial de la crise sanitaire au Québec. Beaucoup de chiffres là-dedans, notamment 37%. Ça, c'est le pourcentage d'adultes québécois de 18 à 24 ans qui ont rapporté des symptômes anxieux ou dépressifs dans le cadre d'une enquête universitaire qui a été publiée hier. Donc, les jeunes qui sont particulièrement touchés par cette pandémie. Et on va en parler avec Mélissa Généreux, qui est professeure chercheuse en santé publique à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Madame Généreux, bonjour.
Bonjour.
Il y a beaucoup de détails dans votre étude, mais est-ce qu'on doit comprendre avec ces chiffres-là que particulièrement les plus jeunes sont très, très touchés par les dépressions, l'anxiété reliée à la pandémie?
Ah, définitivement, vous l'avez bien dit, hein, on parle de 37%. Autrement dit, 4 jeunes sur 10 dans la tranche des 18-24 ans dans cette région du Québec là, qui actuellement, au moment où on parle, affichent des symptômes soit d'anxiété ou de dépression. Ça dépasse évidemment ce à quoi on pourrait s'attendre dans un contexte normal hors pandémie, ça c'est bien évident. Et on voit surtout que ce pourcentage-là va en diminuant. Donc quand on va jusque chez les 65 ans et plus, par exemple, le pourcentage ça baisse à quelque chose comme 10%. Donc il y a vraiment un effet d'âge être délétère dans ce cas-là.
Mais, docteur Généreux, est-ce qu'on a des comparables? Parce que vous dites que ça dépend ce à quoi on pourrait s'attendre en temps normal, mais est-ce qu'on a déjà pris cette mesure-là? Est-ce qu'on est capable de faire un comparatif avec ce que c'était en temps normal, disons?
C'est une excellente question à laquelle, pour moi, c'est difficile de répondre parce que, dans nos constats, une chose qu'on réalise, c'est qu'on n'a pas beaucoup de comparables pré-pandémie. J'ai l'impression qu'on s'intéresse de plus en plus à la santé mentale, mais des enquêtes là, menées à large échelle, à la grandeur de la population du Québec, pour dire quelque chose, avant la pandémie, là, qui utilise des bonnes mesures de santé mentale, on n'en a pas beaucoup. Bien évidemment, on n'était pas à 40%. C'est hors de question là, de penser que la situation n'a pas changé. Mais dans les meilleurs estimés qu'on a, d'anxiété généralisée, on était plus autour du 2-3%. Puis pour la dépression, plus autour du 7%. Mais c'est vraiment sous toute réserve là, parce que c'était pas des études qui se comparent très bien avec celles qu'on a faites.
On est capable de se faire une idée du pourquoi, là, mais scientifiquement, précisément en détail, qu'est-ce qui cause cette anxiété-là? J'imagine qu'il y a la perte des activités sociales, le peu d'espoir qu'on nous donne. Comment on l'explique précisément scientifiquement, cette anxiété-là? Là?
Mais en fait, c'est peut-être toute l'originalité de notre projet. Il faut savoir que c'est un projet qui est pas juste fait d'un point de vue de santé publique, mais vraiment aussi avec une influence des gens qui ont une expertise en communication puis en sciences politiques. Et aussi bien que ce qu'on a fait, c'est que dans notre questionnaire, on a examiné plein de facteurs, incluant des facteurs qui sont en lien avec l'information. Mmh. L'information à laquelle on est exposé, puis comment on interprète cette information-là aussi. Et ce qui est fascinant, c'est que justement, chez nos jeunes, on voit qu'ils sont beaucoup plus nombreux à, premièrement, avoir moins confiance envers les autorités, que ce soit le gouvernement, la santé publique, et d'un. Et de deux, ils sont beaucoup plus nombreux à adhérer à des fausses croyances. Exemple, le 5G est responsable de la transmission et tout ça du virus. Et de trois, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus nombreux à aller chercher l'information sur le coronavirus, soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou encore auprès de l'entourage, plutôt qu'aller auprès des sources plus formelles.
C'est intéressant ça, parce que moi, je me posais la question. C'est pas une constatation, c'est une question que je me posais. Puis je me disais, au fond, les complotistes, puis ceux qui embarquent là-dedans, puis ceux qui sont ultra, ultra critiques, ne sont-ils pas les plus anxieux de tous, finalement, quand on y pense? C'est-tu un peu ça que ça dit, ou je vais peut-être un peu trop loin?
Ah, vous n'allez pas trop loin. C'est pas mal ça que ça dit. Bon, moi, c'est sûr, je les appelle pas nécessairement des complotistes, mais on a créé une échelle de fausse croyance. Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est parce qu'on adhère à une théorie du complot ou on a juste mal compris l'information qui nous a été reçue? L'intention derrière, j'ose pas me prononcer là-dessus, mais toujours est-il que les gens là, qui adhèrent à différentes fausses croyances, souvent en lien avec une théorie du complot, sont aussi les gens sont beaucoup plus anxieux et dépressifs. Donc oui, il y a un lien de cause à effet fort probable entre les deux.
Par contre, le gouvernement a un devoir de cohérence. C'est un aspect que vous avez abordé dans l'étude et je trouve ça fort, fort, fort intéressant parce que les gens ont été ébranlés au niveau de la santé mentale par la première pandémie, mais de façon générale, il y avait une certaine cohérence dans l'action gouvernementale. Tout était fermé égal, finalement. Les gens étaient chez eux en se disant, bon, on est tous dans la même situation, on va passer au travers. Là, ce qu'on reproche au gouvernement, ce que certains reprochent, c'est que c'est pas toujours cohérent, ou en tout cas, on l'explique peut-être pas de façon aussi efficace pourquoi les gyms restent ouverts, mais qu'on ferme les restaurants, les salles de spectacle, par exemple. Or, vous démontrez que la cohérence peut jouer sur ce sentiment d'anxiété-là ou de dépression majeure.
Exactement. Nous, c'est sûr que ce qu'on a mesuré, c'est à quel point les gens sentent que c'est cohérent. Donc, évidemment, je suis pas en train de dire que le gouvernement est pas cohérent, mais de la manière dont c'est perçu par les gens qui ont tendance à dire tout ça est plus difficile à comprendre ou à donner un sens. On a l'impression qu'on a de la misère à être en contrôle de la situation parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Mais ces gens-là qui ont un moins bon sentiment de cohérence, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, ça, là, c'est le facteur qui est le plus prédicteur de développer de l'anxiété ou de la dépression en temps de pandémie. Là. Dans notre étude, c'est catégorique. Ces gens-là qui trouvent ça moins cohérent sont ceux qui souffrent le plus à l'heure actuelle. Donc oui, la cohérence est sur toutes les lèvres et j'en suis pas du tout surprise parce que c'est de loin là, le facteur le plus important dans notre étude.
Parlons du vaccin. On apprend qu'il y a à peine 2 adultes québécois sur 3 qui seraient prêts à recevoir un vaccin homologué contre la COVID-19. 16% des répondants le refuseraient. C'est quand même assez élevé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Oui, écoutez, j'avais bien hâte de voir ça. Parce que première chose que je peux vous dire, bon, et c'est sûr que dans le 65%, pour être exact, de gens qui disent qu'ils seraient prêts à recevoir un vaccin lorsqu'il y aura un vaccin homologué, l'autre balance se divise en 2 groupes. Il y a ceux qui disent, moi, je le refuserais, et ceux qui sont hésitants. Bon, donc l'hésitation à ce point-ci, avec toute l'incertitude, on peut quand même comprendre que certaines personnes basculent dans l'hésitation. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est le 16% de gens qui disent, moi, je le refuserais. Tu sais, pas qui arrive. Moi, à ce moment-ci, là, c'est un gros non. Et ça, ce 16%-là, c'est 2 choses qui m'inquiètent. Premièrement, on avait posé la même question à des Québécois au début juin et le taux de refus est en augmentation. Donc, on avait 12% des gens en début juin qui disaient « je refuserais » et là, on a monté à 16%. Donc, j'espère juste qu'on ne suivra pas une tendance à la hausse parce qu'évidemment, si trop de gens refusent le vaccin, ben on n'aura pas le gain là, escompté au niveau de la réduction de la transmission de la maladie. Et l'autre chose qui est préoccupante, c'est qu'on sait que bon an, mal an, là, pour ce qui est de la vaccination régulière, ben, habituellement, les anti-vaccins sont plutôt à hauteur de moins de 5% dans la population. Donc, il semble avoir un phénomène directement plus lié au vaccin contre la COVID là, qui est préoccupant.
Je reviens sur des aspects de santé mentale, d'autres éléments que je trouve fort intéressants, parce que l'étude à laquelle l'Université de Sherbrooke participe, elle est d'étendue mondiale. Donc, est-ce qu'on est capable de se comparer avec des résultats ailleurs dans le monde? Et est-ce qu'on est capable de faire une corrélation entre, par exemple, le nombre de décès, le nombre de cas qu'il peut y avoir eu dans un territoire donné et le sentiment d'anxiété ou de dépression dans la population en question?
Hey, j'adore vos questions, parce que c'est vraiment des choses qu'on a regardées, c'est vraiment pertinent. En fait, je dirais, à l'échelle du Québec, oui, parce que les régions, dans les 7 régions qu'on a examinées, les régions où on a un plus grand nombre de cas par habitant, ce qu'on appelle l'incidence des cas, notamment Montréal et Laval, sont aussi les régions où on observe plus de détresse et plus d'anxiété. Donc, c'est pas une corrélation parfaite, mais je vous dirais qu'on observe cette tendance-là. Par contre, dans l'étude qu'on a fait internationale, qui est un autre volet, là, ça s'est pas fait exactement au même moment, c'était plus en juin, ce qu'on avait observé, c'est que les Québécois s'en sortaient globalement mieux que le reste du Canada, alors qu'on sait qu'il y a plus de cas au Québec qu'ailleurs au Canada. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que oui, ça peut jouer, mais c'est certainement pas juste le nombre de cas là, qui vient déterminer la santé mentale d'une population en tant que pandémie.
Je vous écoute parler, c'est bien intéressant. Vous enseignez donc en santé publique. Est-ce que la pandémie, puis je comprends que c'est récent, mais est-ce qu'il y a plus d'intérêt pour votre spécialité, je dirais, d'enseignement? Parce que le docteur Arruda, par exemple, j'imagine que c'est quelqu'un qui a étudié en santé publique. Ça, sentez-vous ça un peu?
Ben écoute, moi je suis de Sherbrooke, je dirais que j'ai toujours senti dans les dernières années un engouement qui était là. Il faut savoir que nous, à la direction de santé publique de l'Estrie, je suis aussi médecin en santé publique, là, okay. Puis l'ancienne directrice pour la région de l'Estrie jusqu'à l'an passé. Et on a beaucoup géré, entre autres, la catastrophe de lac Mégantic. Oui, donc on a été très présents, je dirais, et ça fait qu'on a eu une certaine visibilité, puis il y a un engouement qui était déjà là, mais oui, je vous cacherai pas que depuis le début de la pandémie, c'est par exemple, moi, j'enseigne à des étudiants en présentiel encore. Puis là, lundi, bien, on a tout fermé, les PowerPoints, les cours. Puis à 5h30, on s'est dit, regarde, on regarde le point de presse ensemble. Puis évidemment, après ça, j'ai répondu à leurs questions, même si ça n'avait pas rapport à la matière enseignée. Puis je les ai jamais vus aussi attentifs et dédiés à ce que je disais. Donc oui, j'ai l'impression je pense qu'on gagne des points ou en tout cas de l'intérêt auprès de futurs candidats potentiels.
Je prends la balle au bon, docteur Généreux, concernant le lac Mégantic. Est-ce que vous qui avez géré les problèmes de santé publique qui ont découlé de cette catastrophe-là, est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre la réaction, par exemple, de la population de la région qui avait été durement touchée? On a vu des cas de santé mentale, bon, des suicides, des dépressions, et ce qu'on voit dans la population en général là avec la pandémie?
Tout à fait. Mais en plus, c'est sur cette base-là qu'on a décidé de monter le projet de recherche là, dont on parle aujourd'hui pour la pandémie. Moi, notre équipe de recherche, on ne se prétend pas expert en maladies infectieuses ou en pandémie, mais bien en catastrophes et impact psychosocial des catastrophes. Il faut vraiment comprendre qu'ici, la pandémie, on la considère comme une catastrophe naturelle, mais évidemment qu'elle a ses propres caractéristiques parce qu'elle s'étire dans le temps. C'est comme si on n'en sort pas de la crise aiguë, on est encore en même temps, on commence déjà à écoper des effets long terme. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles. C'est le même genre d'impact qu'on observe à la suite d'une tragédie ferroviaire et d'une pandémie.
Sauf que là, quand on entend parler de troisième puis de quatrième vague, j'ai bien l'impression que l'anxiété risque d'augmenter encore avec l'hiver en plus qui s'installe, fait noir à 4h15. c'est l'impression que ça laisse, hein?
Ben écoutez, j'aime pas avoir ce discours-là. Je me trouve pessimiste quand je dis ça, mais effectivement, oui, c'est ça, c'est la réalité. Puis je pense que bon, ça fait mal à entendre, mais mieux vaut le nommer pour essayer de se mobiliser puis de le hausser dans les priorités là, de stratégie de lutte à la pandémie. Parce qu'il y a le virus, mais il y a aussi la santé mentale. Puis je pense que c'est capital qu'on le prenne en considération. Et oui, avec l'automne qui s'amorce, les journées plus sombres, on le sait d'emblée que la santé mentale est affectée, le bon an, mal an, par les phénomènes saisonniers. Donc, rajouter là-dessus une baisse d'espoir ou un certain découragement devant la vague bleue, vague 3, éventuellement, je peux très bien comprendre que c'est dur.
Et justement, docteur Généreux, je trouve ça dommage parce que j'aime ça essayer de finir des entrevues sur une note d'espoir un peu plus positive. c'est l'habitude que j'ai, mais en même temps, je lisais vos propos dans le Devoir ce matin, puis vous dites, le constat qu'on fait, c'est que lorsqu'on parle de santé mentale, les services cliniques seuls ne suffisent pas. C'est ce que vous avez dit. Donc, il n'y a pas assez de ressources, de gens qui vont aller consulter. Donc, l'avenue, la solution, c'est quoi?
Ah, ben moi, je vais vous finir ça avec une note d'espoir parce qu'on a vraiment une vision. Puis justement, si je reviens à lac Mégantic, on a tellement appris sur la possibilité de mobiliser beaucoup plus la communauté, les citoyens, puis les gens qui travaillent dans les écoles, le secteur de la petite enfance, le milieu municipal. On a une richesse là qui est sous-exploitée, à mon avis, de gens qui sont en interface avec les citoyens, la population au quotidien, qui sont peut-être pas experts en santé mentale, mais qu'on peut outiller pour être capable d'agir un peu comme un réseau sentinelle, puis d'être là pour entendre, écouter, observer des phénomènes préoccupants, peut-être même détecter des gens en détresse, les référer au bon service. Donc, je pense vraiment qu'il faut élargir notre vision de la santé mentale, puis comprendre que tout peut pas être pris en charge d'un point de vue clinique. Il faut qu'il y ait une certaine mobilisation puis une bienveillance. On peut-tu dire ça? C'est déjà là, d'arrêter de se contre-attaquer sur les réseaux sociaux puis comprendre qu'on est tous dans le même bateau puis qu'on a besoin d'être bienveillants les uns envers les autres. Déjà ça, je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses.
Merci beaucoup, Mme Généreux.
Ben, ça me fait plaisir.
Au revoir. Elle est intéressante.
Elle est vraiment bonne, docteur Généreux.
Oui, wow. Oui, professeure chercheuse en santé publique à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Très, très, très intéressant. Sans trop simplifier, je pense qu'il n'y a rien de simple là-dedans, mais j'avais ce feeling-là depuis un bout, là. Je pense que, tu sais, ceux qui... les plus toughs, là, hein, ceux qui disent que les pro-masques, c'est des moutons, puis des faibles, puis des peureux. Ceux aussi qui ont le discours complotiste. Ceux qui ont un discours plus tough envers la santé publique. J'avais comme l'impression que c'était les plus anxieux, dans le fond, parce qu'ils ont de la misère à affronter la réalité. Ils ont de la misère à affronter le nombre de cas. Faudrait peut-être les psychanalyser ou je sais pas, mais elle confirme ça un peu, là, là de ce qu'elle nous dit. Ils ont de la misère à encaisser la réalité, fait qu'ils vont s'enfermer dans des théories du complot, dans un hey, « moi, je suis un tough, je refuse de porter le masque, puis je suis anti-masque, puis je vais dans une manif. » Je pense que c'est eux autres les plus anxieux. C'est peut-être eux autres qui ont le plus peur de la maladie.
Ceux qui
dans le
disent
fond,
moi, j'ai juste hâte de le pogner, ça va être fait. Là, ouais, dans ouais, le fond, ça. Ils n'ont pas si hâte que ça. Là.
Ouais, exactement.
Mais ton point est bon, mais je ramène ce que je disais. Le gouvernement a une responsabilité encore plus grande d'être cohérent quand cette étude-là démontre qu'il y a un lien de causalité entre l'absence de cohérence. Quand la personne, elle ne comprend pas ce qui se passe dans le fond, elle devient plus anxieuse. Fait que si le gouvernement n'explique pas clairement ce qui se passe, ouais. Je dis pas qu'ils le font pas, je dis pas qu'ils sont parfaits non plus, mais si le gouvernement explique pas clairement ce qui se passe, il y a des gens qui vont se tourner vers du monde qui vont leur expliquer clairement ce qui se passe.
Mais exact.
C'est qu'il n'y en a pas de pandémie, c'est que la distanciation, ça sert à rien, c'est que le masque, c'est pas bon. Et là, ils vont être réconfortés par ça, et là, ils vont tomber là-dedans.
Mais Joe, je veux pas défendre le gouvernement outre mesure, mais je pense pas tout le monde qui comprend non plus au gouvernement.
C'est pas simple non plus.
C'est la première fois qu'on vit ça. Puis je veux pas leur donner d'excuses, mais je pense que c'est une réalité. 11h20, vous écoutez Trudeau Landry. Restez là!
Trudeau Landry, Jérôme Landry, Jonathan Trudeau. On prend une petite pause. On revient ensuite.